Et nous en sommes à la face B de la cassette, et je mentionne une dernière attitude qui peut nous aider à devenir paragraphe. C'est tout notre circuit judiciaire en Église. L'étude de cas ou des droits importants de la personne, pourtant enseignés et réclamés par l'Église, sont souvent bafoués. Comme par exemple, on oublie de rencontrer la personne concernée, on néglige d'apporter les preuves, d'identifier les sources de renseignements, on procède souvent en un seul coup à l'accusation, au procès sommaire et à la condamnation, sans avoir favorisé la meilleure défense possible. Alors, on n'a pas de difficulté à s'imaginer comment tout cela entrave la libre circulation de la grâce divine. Et nous passons maintenant, dans le chapitre 3, à l'article B, sur le plan individuel. Et nous verrons en trois points que nous sommes souvent notre propre paragraphe. Deuxièmement, que nous devenons paragraphe pour les autres. Et troisièmement, qu'ils deviennent paragraphe pour nous. Alors, procédons par étapes. D'abord, nous sommes nous-mêmes notre propre paragraphe. Et ça peut venir de trois causes principales, parmi bien d'autres, mais que je tenais à retenir parce qu'elles sont plus fréquentes. La première, ce sont les complexes érigés en système. Deuxième, les vertus mal comprises et mal pratiquées. Et troisièmement, la tendance à s'absoudre personnellement et facilement de ses erreurs. Une précision préliminaire qui est un rappel, car j'en ai déjà parlé. Vous savez que l'orgueil prend racine surtout dans deux terrains fertiles, situés l'un à l'opposé de l'autre. D'abord, et c'est bien connu, là où il y a abondance d'avoir, de pouvoir, de savoir. Mais l'orgueil prend également racine à l'extrême opposé, là où il y a, où il y a eu, grande pauvreté, misère et privation. Dans les deux cas, l'orgueil prend racine, s'installe, se donne des raisons d'être, et durcit peu à peu le cœur et l'esprit. Chacun et chacune d'entre nous, si il ou si elle n'y prend garde, peut être paragraphe, devenir coupe-circuit ou même court-circuit de la grâce, de sa venue, de son action, en lui et elle-même, soit en pensée, soit en parole, soit en acte ou soit par omission. Voyons le cas des complexes. Les complexes d'infériorité ou de supériorité érigés en système. Dieu d'amour et de miséricorde ne refuse jamais sa grâce à ceux et celles d'entre nous qui ont consciemment ou non des complexes d'infériorité ou de supériorité, qui sont moralement ou spirituellement handicapés, qui sont victimes de blessures ou de prises en otage dans la vie. Tout au contraire, je dirais même que le Seigneur est particulièrement généreux dans ses bienfaits à l'égard de ceux et celles qui souffrent ou font souffrir les autres malgré eux, ayant été eux-mêmes ou elles-mêmes bousculés ou marqués par la vie. Jésus nous a d'ailleurs dit clairement qu'il est venu pour sauver et non pour juger, Jean 12, 47, et que ce sont les malades qui ont besoin d'être aidés, non les bien portants, Luc 5, 31. En conclusion donc de cette remarque préliminaire, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne veux absolument pas dire, d'avoir des défauts naturels, des blessures psychologiques, des complexes sérieux, des travers de caractère, d'être démunis à bien des égards, bref, d'être faible moralement, ne nous déclasse pas sur le plan des grâces offertes par Dieu. Contrairement à ce qui se passe souvent dans le monde, et parfois même entre nous en Église, notre Père du ciel n'attend pas notre perfection acquise ou notre succès dans la vie spirituelle avant de venir à notre aide. Au contraire, il multiplie ses lumières, son secours et ses forces en abondance aux plus maladroits, aux plus indigents et mal pris. On n'a aucune raison donc de se croire délaissé par Dieu à cause de ses lacunes, de ses handicaps ou blessures. De son côté à lui, les grâces surabondent. De son côté, il multiplie les octrois de grâce. Et passons maintenant à la grande question. Si ces grâces divines surabondent, ne semblent pas m'atteindre, m'aider, où se trouve le paragrâce, l'obstacle, l'écran, à leur réception et à leur effet en moi? Il y a ou aura paragrâce, court-circuit ou blocage dans l'opération des grâces, si je puise dans l'expérience de ma vie sacerdotale, d'écoute et d'accompagnement des âmes, surtout dans les cas suivants. Le premier cas d'obstruction, c'est quand une personne est consciente de ses lacunes, défauts à corriger, prise d'otage à rompre, complexe à réprimer, libération ou guérison à obtenir, etc., et que, malgré cela, elle décide de ne rien faire, d'endurer, on devrait même ajouter, de faire endurer aux autres son mal. Cette personne a beau être interpellée soit par l'Esprit du Seigneur en direct, soit par un ou des amis, soit par une petite communauté, à travailler sur tous ces points, rien n'arrive, car elle préfère demeurer dans cette impasse et ce handicap. À compter de ce moment, là où les grâces ont alors de moins en moins de chances d'opérer, l'attitude libre de cette personne devient un déni de grâce, l'équivalent d'un refus d'aide divine. Et Dieu, qui respecte le don de liberté qu'il nous a donné, ne force pas la porte. Un deuxième cas d'obstruction, c'est le cas de ceux et celles qui non seulement ne font pas le nécessaire pour s'en sortir, mais vont même jusqu'à vouloir s'installer orgueilleusement dans leur misère. Ces personnes dont très tôt l'hymne national devient le « non sum dignus » ou « digna », « je ne suis pas digne », ils veulent presque tirer profit de leur statut de victime de la vie, de blessé ou de complexé. Il y en a même, et cela va peut-être vous et nous étonner, qui réussissent à se servir d'un complexe certain d'infériorité ou de supériorité, pour se cacher ou cacher leur jeu. Donnons deux exemples. Des personnes qui, derrière leur complexe d'infériorité évident, ne cessent de se déclarer inaptes, démunies, indignes, ne s'assoient jamais au premier rang de peur d'être repoussées, et jamais au dernier rang, de peur d'être invité à avancer, et jamais au milieu, parce que cela les étouffe. Ils vont plutôt s'asseoir dans un coin de la salle, arrivent en retard, etc. Et par ailleurs, malgré toute cette mise en scène de pauvreté, d'infériorité, ces mêmes personnes trouvent le moyen, derrière l'écran de ce complexe, de mener, de s'imposer, d'arriver toujours à leur fin, de manipuler sans en avoir l'air. À l'extrême opposé, il y a ceux et celles qui ont un certain complexe ou un complexe certain de supériorité et qui, au lieu de tenter d'en être libérés, l'entretiennent, l'alimentent en se donnant des raisons, des motifs spirituels même pour justifier leur autoritarisme, des tucs laides. L'importance de leur titre, de leur fonction, le besoin qu'a tout chef de rendre compte, donc de contrôler, d'épier, de subjuguer. Il arrive souvent, et c'est un des grands paradoxes, psychologiquement parlant, que certaines personnes réussissent, les unes à camoufler leur insécurité sous un apparent complexe de supériorité, et les autres à camoufler leur désir de pouvoir et de domination sous les apparences d'un complexe d'infériorité bel et bien structuré. Une autre cause qui fait que nous pouvons être nos propres paragraphes, ce sont les vertus mal comprises ou mal pratiquées. Comme par exemple ce qu'on appelle la sainte colère, un emportement qu'on tente de motiver, d'expliquer, d'absoudre à coup de bonnes intentions spirituelles. Je me suis emporté, mais je devais m'emporter. Ou encore ce qu'on appelle la sainte obéissance, qui est de la pure soumission, de l'assujettissement à ceux et celles qui ont de l'autorité, peu importe leur décision, on se garde bien des discerner, des évaluer. On y va aveuglement et absolument, en étant peu ou pas éclairé. Ça aussi, ça prête flanc à des paragraphes. Ce qu'on appelle la sainte prudence, ne pas dire ou ne pas faire au cas où cela tournerait mal. Comme des gens qui vont dire, bien, dans le ohé, ohé, le Big Bang spirituel, vous avez dit que Jésus reviendrait, que les événements se produiraient d'ici l'an 2000, et qui réagissent en disant, bien, moi, je n'aurais pas mis ou dit de date. Mais, à la vérité, le Seigneur ne leur a jamais demandé à eux ou à elles de dire aucune date, sachant peut-être qu'ils n'auraient pas obéi. La vraie question à poser, c'est « M'a-t-il demandé à moi de prophétiser ainsi ?» Et moi, j'en suis sûr qu'il l'a précisé et qu'il m'a demandé de le redire. Ce qu'on appelle la sainte charité, mais par abstention. Abstention de paroles, de critiques ou de jugements seulement. Donc, consiste à se taire et à s'abstenir, pas nécessairement par amour, mais par simple discipline. Et ce n'est pas la charité chrétienne. C'est à peu près comme des militaires qui ont appris à ne pas résister ou ruspéter devant un officier qui leur donne un commandement. C'est une discipline de vie. Mais la charité fraternelle, c'est un circuit d'amour par action et non par abstention. Le saint abandon, qui en amène certains à tomber dans une grande inertie, apathie, peur, capitulation. Enfin, une troisième cause qui peut nous rendre facilement notre propre paragraphe, c'est la tendance à nous absoudre rapidement et facilement de nos erreurs ou de nos lâchetés collectives. Et même, après coup, à les déclarer sans doute providentielles, convaincus souvent que le Dieu va en tirer le plus grand bien. Que de communautés ont procédé très mal pour mettre à la porte leur fondateur, leur fondatrice. On n'a pas respecté l'Évangile, on n'a pas respecté les droits de la personne, puis bon, dehors. Mais après, on s'est dit, bien, c'était quand même providentiel. Et puis, on a écrit des ouvrages pour expliquer la beauté de cette mise à la porte, le fondateur, la fondatrice, où on a fait taire un ou une personne trop priante, trop interpellante, trop prophète. On l'a fait de façon drastique, de façon injuste, de façon en manquant la charité et tout. Sous la menace des sages et intelligents, on retraite, on capitule, on se réfugie aux catacombes, etc. Puis, quand on fait ces gaffes-là, la gaffe faite, l'erreur commise, au lieu de s'examiner sérieusement, d'en tirer toutes les leçons, de regretter ce qui est à regretter, de demander les pardons qu'il faut demander, et de réparer, et d'en faire donc une sérieuse autopsie spirituelle, on s'empresse de dire à qui veut l'entendre, et on le dit en guise de calmant, « Eh bien, après coup, ça devait être la volonté du bon Dieu. Il va sûrement tirer profit. » Après tout, on était bien intentionné, on était sincère et on se donne l'absolution. Tous ces dossiers ainsi fermés, dans le brouillard, sans véritable examen de conscience, de retour en arrière, où des faussetés et des injustices demeurent non réparées souvent, deviennent, on l'imagine bien, des paragraphes pour le milieu et pour les personnes. Passons au deuxième point pour voir que souvent, avec les meilleures intentions, encore une fois, nous sommes paragraphes pour les autres. Voyons cinq cas où nous pouvons justement être paragraphes pour les autres. D'abord, en semant le doute à tout vent, systématiquement. Surtout le doute provoqué a priori et entretenu ensuite, concernant tout ce qui est nouveau ou merveilleux. On connaît très bien, on a déjà entendu parler de cette méthode du philosophe Descartes, le doute méthodique. Lui, au moins, avait deux avantages sur les hommes et femmes d'Église qui doutent de façon chronique. D'abord, il disait que, par les doutes, il voulait arriver quand même à la vérité. Pour lui, c'était une méthode, une manière de procéder, mais ayant comme but ultime la vérité. Et il excluait de son doute systématique les maximes de morale provisoire et les vérités de la foi. Car, disait-il, pendant qu'on analyse avec notre esprit, il faut tout de même continuer à agir. Et quant aux vérités révélées, elles sont hors de discussion puisqu'elles dépassent notre intelligence. Or, beaucoup de gens, vous en connaissez autant que moi, des hommes et femmes d'Église, qui sont incapables d'accueillir, même en première analyse, la moindre affirmation nouvelle concernant la vie spirituelle et l'action du Seigneur dans les âmes, le monde ou l'Église. Automatiquement, c'est le phénomène du rejet, la campagne du doute, et à la longue, cela affaiblit la foi, l'espérance et bloque l'action de la grâce. Une autre attitude qui nous rend paragraphes pour les autres, c'est une mentalité de deux poids, deux mesures, double standard, comme ces personnes qui, d'une part, exigent que les autres disent non seulement la vérité, mais toute la vérité, sans restriction mentale ou sans omission, et par ailleurs, elles-mêmes ne se gênent pas pour trier à leur guise, omettre, atténuer, ne dire que ce qui convient, être cachotière ou mystérieuse même. Les personnes qui, concernant la miséricorde, réclament avec raison de ne pas être jugées, condamnées, mais toujours traitées avec indulgence, miséricorde, clémence et par ailleurs, sont elles-mêmes, vis-à-vis des autres, intolérantes, intransigeantes, sévères, impitoyables. Ceux et celles qui reprochent aux autres de ne pas les accueillir tels qu'ils sont et n'accueillent pas les autres tels qu'ils sont. Ceux qui accueillent seulement les conseils et les avis des autres quand ça les favorise ou les complimente. Et par ailleurs, rejettent tout conseil qui les interpelle, les rappelle à l'ordre. Une autre attitude qui peut nous rendre paragrâce pour les autres, c'est le harcèlement spirituel, ce qui, hélas, est pratiqué dans bien des communautés religieuses, dans bien des mouvements dits de renouveau post-conciliaire. Harcèlement au point de départ, ou en cours de route, ou à la fin. On veut tellement activer le recrutement, le membership, qu'on crée des pressions. On talonne les gens pendant qu'ils assistent, on contrôle les présences, le rendement, etc. Et s'ils viennent avec l'idée de quitter, on essaie de les culpabiliser, de mettre en doute leur discernement. Heureusement, aux fondations, nous avons essayé d'éviter ces écueils. Les gens ont connu une très grande liberté spirituelle d'enfants de Dieu à leur venue, durant leur séjour, au moment de leur retraite ou même de leur retour. Et personne ne contrôle, nous les oblige à venir participer aux plénières. Ils y viennent sans peur et sans pression, à leur propre désir. Autre moyen d'être par grâce pour les autres, quand je dis moyen, ce procédé qui nous rend par grâce pour les autres, c'est l'attitude de certains directeurs ou conseillers spirituels, qui, malgré leurs bonnes intentions, leur longue expérience, leur zèle et bienveillance, sont devenus, malgré eux et à leur insu, des paragrâces divines, des coupes-circuits, des interrupteurs d'onction divine et de croissance spirituelle. C'est bien entendu que ça suppose bien des connaissances pour être directeur et conseiller spirituel. Mais le plus important de tout, c'est d'avoir l'aptitude à pouvoir radiographier ou ausculter la vie de l'âme en mouvement à l'heure actuelle et de déceler dans cette âme ce que Dieu y dit et y fait. Donc, non pas une âme théorique, hypothétique, d'allure générale, mais bel et bien l'âme de Pierre ou Pierrette, de Jean ou de Jeanne, et ce qui se passe présentement dans leur cheminement spirituel, et en conscientiser le ou la personne concernée, le dirigé concerné, le bénéficiaire, et décoder ensemble la suite à donner. Donc, non pas partir d'une thèse, non pas partir de lui, le directeur ou la conseillère, non pas de son état de vie comme directeur ou conseiller, mais partir bel et bien de l'action divine à l'œuvre en l'âme du dirigé ou de la personne bénéficiaire. Et enfin, une autre attitude par laquelle on peut être paragrâce pour les autres, c'est en imposant une spiritualité toute faite. Vous savez qu'une spiritualité, c'est un ensemble de thèmes, de priorités et d'étapes qu'on privilégie dans un cheminement de croissance spirituelle. Si noble et si lumineuse, si modèle soit-elle, la spiritualité doit se limiter à indiquer la route vers, encourager et faciliter un bon cheminement spirituel, être comme une carte routière exacte et attrayante, mais ne doit nullement dégénérer en imitation ou reproduction pure et simple de celui ou de celle qui l'ont enseigné et vécu, et limiter les spontanéités et autres plans de route de l'esprit en tel ou tel enfant de Dieu. Toute spiritualité demeure donc un moyen, un instrument, une aide, un modèle et une suggestion. et non un objectif auquel on doit vouer un culte et s'assujettir complètement ou assujettir les autres. Et passons, si vous le voulez bien, au troisième point, où nous allons voir comment les autres peuvent être par grâce pour nous, à cause de leur comportement fautif, erroné ou défectueux, et cela, même si eux et elles-mêmes s'en rendent plus ou moins compte. Et ici, rapidement, au pas de course, nous allons voir quelques types de comportements où les autres sont par grâce à notre égard. Ce qui est étonnant et décevant parfois, c'est qu'on retrouve ces comportements chez des personnes qui se veulent ou se croient, ou qu'on imagine ou qu'on imaginait de saintes personnes du bon Dieu. Le premier type, c'est celui du zizaneur ou la zizaneuse, la personne qui fait la zizanie ou la désunité, un ferment de désunité. Cette personne, disons-le, est toujours porteuse de son germe, tant et aussi longtemps qu'elle ne l'a pas reconnu, confessé et obtenu d'en être libérée et guérie. Et même si, séance tenante, la personne ne dit rien contre la charité ou la justice, sa présence contamine invisiblement le milieu et bloque consciemment ou inconsciemment l'accueil de la grâce par les autres. Toute cette attitude courante qui prône la tolérance inconditionnelle sous prétexte d'ouverture aux autres, de largeur de vue, de compréhension et d'entraide, et qui encourage plusieurs à fréquenter indistinctement tout le monde, quelle que soit leur maladie, de corps, d'esprit, de cœur ou d'âme, ces gens se mettent alors dans un double circuit de paragrâce. Les autres qu'ils fréquentent le sont pour eux et elles, et eux et elles le deviennent pour les autres. Le blocage se fait donc dans les deux directions. Vous savez, il ne faut pas confondre largeur de vue et largeur de vie. Sur le plan physique, l'hygiène et la médecine déconseillent certaines fréquentations, sous peine de contagion, même fatale. C'est la même chose sur les plans de l'esprit, du cœur et de l'âme. Et en une certaine manière, c'est plus dangereux de se faire empoisonner sur les plans du cœur, de l'esprit, de l'âme que sur celui du corps. Car sur le plan physique, l'alarme sonne plus tôt. Les méfaits d'un microbe, d'un virus se révèlent davantage à notre connaissance. Et bref, l'empoisonnement fait réagir l'organisme qui peut alors mieux se défendre si l'immunité est bonne, et ou recourir à des médicaments. Ce n'est donc pas faire preuve de charité chrétienne que de fréquenter des gens qui manquent régulièrement et notoirement à la charité, comme ce n'est pas démontrer un sens de la vérité que de fréquenter des menteurs, de la justice que de fréquenter des criminels, de la tempérance que de fréquenter des ivrognes. S'occuper d'eux pour leur venir en aide, d'accord. S'occuper de leurs victimes, d'accord. Mais les fréquenter au nom d'une amitié sans avoir le courage de les aider à se convertir, ce n'est pas vertueux, mais malheureux. Un autre type, je l'appelle le type des apostropheurs, si vous me permettez d'inventer le mot, anonymes. Des personnes qui n'ont pas le courage de s'identifier et d'identifier là où les personnes qu'ils visent nous laisse dans le flou, dans le brouillard. Ce n'est pas cet exemple que Jésus a donné à ses apôtres et ses disciples. Il savait porter toute la responsabilité de ses dénonciations ou de ses déclarations, et tous savaient, quand Jésus avait parlé, à qui et à quoi il voulait en venir. Le type des pique-bois, des pique-verts, ce type d'oiseau qui se sert de son bec comme d'une foreuse pour percer l'écorce des arbres à la recherche des petites bêtes noires. Ça fait penser à tous ces gens qui ne s'arrêtent pas à la beauté de l'arbre, des fleurs et des fruits qui ornent la vie de leurs frères et sœurs, mais sont toujours à grappiller, à piquer, à ronger, à chercher les points noirs, les petites lacunes chez les autres. L'autre type, les croyants du lendemain. On sait deux choses très claires depuis longtemps et clairement. D'une part, Jésus a dit « Croyez d'abord et vous verrez ensuite ». D'autre part, le monde scientifique nous dit le contraire. « Voyez et confirmez d'abord et vous croirez ensuite ». Or, nombre d'hommes et de femmes en Église, parmi lesquels se situent bien des pasteurs, docteurs et dirigeants, essaient de rallier ces deux points de vue, d'en faire une espèce d'alliage. Ils veulent bien croire, mais pas trop la veille, plutôt le lendemain. Ils veulent et se font accroire qu'ils sont croyants. Ils ont tout un répertoire illimité de motivations avec lesquelles ils engourdissent leur foi. Après tout, il faut être prudent. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Il faut bien discerner, vérifier, etc., etc. À tout examiner, vous savez, au microscope, plutôt qu'au télescope ou au théoscope, les défis de la foi, bien des pasteurs, docteurs et leaders spirituels s'embrouillent, s'embourbent et s'emprisonnent, et leur foi devient purement intellectuelle et scientifique. Ils finiront par croire uniquement lorsqu'ils pourront voir, du moins l'espèrent-ils, mais ce qu'ils ne doivent pas oublier, c'est que cette grâce leur sera refusée. En effet, c'est déjà prophétisé et déclaré qu'en ceux et celles qui ont su croire la veille vont commencer à voir, les non-croyants de la veille voudront voir et ne verront pas. Et on pourrait donner d'autres cas, le type des endormis en dormant qui cherchent à gagner du temps, les voyeurs et louvoyeurs, les sed contra, comme on dit, les oui mais cependant, etc., etc., sont des gens qui, lentement mais sûrement, nous amènent facilement à devenir par grâce pour les autres. Et passons, si vous le voulez bien, au chapitre 5, ou chapitre 4 plutôt, la bonne attitude à avoir face aux personnes par grâce. Eh bien, il y a 5 raisons de ne pas contacter, rencontrer ou fréquenter ceux et celles qui sont consciemment des paragrâces, c'est-à-dire des personnes qui savent fort bien qu'en parlant ou agissant, comme elles le font, qu'elles sont coupe-circuit de la grâce divine. Prenons les personnes qui violent facilement et habituellement le commandement nouveau du « aimons-nous les uns les autres » et ses exigences explicitées par Jésus. La première raison, c'est qu'ils et elles sont en état de non-amour et ne sont jamais instruments du Seigneur pour nous transmettre sa ou ses grâces. Ils et elles ne donnent pas le signe auquel sont reconnus les disciples du Christ. La deuxième raison, ils sont porteurs de germes empoisonnés et empoisonnants. Leur seule présence peut nous contaminer et laisser, même après leur départ, des séquelles malheureuses. Un peu comme la pollution due à la circulation des véhicules automobiles. Même après leur passage, l'air continue à être contaminé. Une troisième raison de ne pas fréquenter ceux qui sont des paragrâces pour nous, c'est que le Seigneur lui-même, avec prudence, après nous avoir dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent, et en sous-entendu de leur pardonner, le Seigneur lui-même ne demande pas de rencontrer ou de fréquenter ses persécuteurs, ses ennemis ou ceux qui risquent de nous nuire, quel que soit leur titre ou fonction en Église. Une quatrième raison, c'est que ces personnes ne sont nullement en mesure de nous comprendre et d'apprécier les perles et les choses saintes que le Seigneur nous confie. Et n'oublions pas ce conseil où Jésus nous dit, à Matthieu 7, 6, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et que se retournant, ils ne vous déchirent. » Cinquième et dernière raison, le fait de ne pas vouloir les rencontrer et de leur dire exactement pourquoi on s'en abstient, à la demande du Seigneur et à l'exemple de Jésus, qui s'en allait d'ailleurs dès qu'il sentait leur opposition, c'est de nature à les interpeller, à les secouer, habitués qu'ils ou qu'elles sont à s'imposer partout et à être tolérés bien souvent au nom d'une soi-disant charité chrétienne, qui est fausse en fait et illusoire en pratique, nous en avons parlé il y a un instant. Et ce choc fait dans la charité a bien des chances, la grâce de Dieu et les ministères invisibles aidants, de les amener à s'interroger eux-mêmes sérieusement. Alors, et alors seulement, devenus en voie de réflexion, le moment du « va voir ton frère, seul à seul, et révèle-lui son péché » deviendra de notre part beaucoup plus possible et rentable. Avant tout cela, ce serait peine perdue. Et passons au cinquième et dernier chapitre, la bonne attitude à avoir face à tous les comportements individuels, institutionnels, devenus par la grâce en Église. Ici, pour synthétiser la réponse ou la bonne attitude à avoir, permettez-moi d'inventer une autre expression. Nous connaissons l'expression permapres, permanence, permafrost ou permagel, quand on parle du sous-sol perpétuellement gelé des régions arctiques, ou permanente, une permanente, une ondulation plus durable des cheveux. Eh bien, si je veux passer du para-grâce à la bonne attitude, je deviens perma-grâce. Donc, c'est l'équivalent de se faire donner une permanente spirituelle. Par l'intermédiaire des lois de l'état civil, la société, on le sait, prend toute une série de mesures pour protéger la santé et la vie corporelle des citoyens. On a institué, par exemple, ce qu'on appelle la quarantaine. C'est une période d'isolement imposée aux voyageurs qui arrivent d'un pays où sévissent diverses maladies contagieuses. Aujourd'hui, cet isolement est de moins de 40 jours grâce au progrès des moyens de détection et des moyens de désinfection. On connaît ce qu'on appelle l'internement psychiatrique d'office, décidé par les autorités administratives dans les cas graves où l'entourage pourrait en subir des contre-coups. On connaît l'isolement en chambre à l'écart d'un malade contagieux dans un centre hospitalier, l'internement des criminels et des personnes violentes, l'obligation de diminuer considérablement la vitesse dans les zones scolaires, l'obligation de s'arrêter lorsque des écoliers descendent d'un autobus scolaire, l'obligation en route de boucler sa ceinture de sécurité. des contrôles policiers de l'alcoolémie, c'est-à-dire du taux d'alcool dans le sang d'un automobiliste, etc., etc. Bref, il existe une multitude de moyens pour protéger le bien-être, la santé et la protection du corps, partie mortelle de notre être. Or, il est aussi important de voir à la santé, à la sécurité, au bien-être, de voir des autres, du bien-être des autres composantes de son être, l'âme, l'esprit et le cœur. Dans le cas du corps, on vient de le voir, l'État intervient, limite notre ou nos libertés, tient à l'écart, malgré eux, ceux et celles qui menacent le corps. Mais l'État ne peut pas ou ne veut pas trop s'en mêler quand il s'agit du salut des âmes, de la paix, de la pureté, de la protection des esprits et des cœurs. Pensons à nouveau à la violence continue qui nous assaille à la radio et à la télévision et dans les masses médias en général. C'est donc à chacun et à chacune de nous de voir à se prémunir contre ces assauts, à se défendre face aux assaillants de l'esprit, du cœur et de l'âme, à s'équiper et à s'armer dans son cœur et son esprit, à s'isoler lui-même et elle-même pour éviter les isaneurs, les malveillants et malfaisants, les agressifs, les désobligeants, les corrosifs, les virulents, etc., etc. Rien dans l'Évangile nous encourage à de telles fréquentations, c'est bien au contraire, il faut rechercher ceux et celles qui éclairent, édifient, fortifient, protègent, enrichissent notre âme, notre cœur et notre esprit. Alors voilà, mes chers frères, cet enseignement, ce vin nouveau sur le paragrâce, qui est un écran, ou une personne qui fait écran, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou non, au passage de la grâce, à l'entrée, à l'accueil ou à la sortie, et par conséquent, a des répercussions chez les autres ou de la part des autres. Que cette lumière nous soit accueillie, que la grâce du Seigneur nous fortifie, je vous le souhaite de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.